Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Réunir les générations au travers du jeu. C'est l'objectif voulu par la ville de Saint-Herblain avec son bien nommé Festival des Jeux. Pour cette 34e édition, intitulée « Ce festival dont vous serez le héros », les organisateurs mettent le jeu de rôle à l'honneur et dévoilent une programmation riche et éclectique. Nous sommes aujourd'hui à la bibliothèque Charles Gauthier Hermeland, en compagnie de Nicolas Chauviré, pour faire un tour d'horizon de l'événement. Vous êtes dans Mégaphone, l'émission de la rédaction sur Jet FM. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Chauviré, donc responsable du pôle animation, communication et production de contenu à la bibliothèque Charles Gauthier Hermeland. Donc c'est cette bibliothèque qui a travaillé notamment avec d'autres bibliothèques de Saint-Herblain sur le Festival des Jeux, donc qui va se dérouler du 10 au 23 février. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire du festival et nous la présenter ?
Donc le Festival des Jeux existe depuis 33 ans environ. À l'origine, il a été lancé par les ludothèques de la ville de Saint-Herblain, qui à l'époque était associative. Donc le festival à l'époque s'appelait Faites vos jeux. Lorsqu'en 2011, les ludothèques ont été intégrées au réseau des bibliothèques de Saint-Herblain. Donc aujourd'hui, nous sommes un réseau de 5 bibliothèques et médiathèques qui proposent des espaces de jeu et du jeu à emprunter. Et la bibliothèque a donc hérité de l'organisation du festival depuis 2012, si je ne me trompe pas.
Et du coup, pourquoi s'orienter spécifiquement sur le terrain des jeux pour une municipalité plutôt que sur la musique, le cinéma ou autre ?
Alors, il y a de toute façon une présence quand même de la musique, du cinéma à travers d'autres structures de la ville. En 2011, la ville a lancé une prospective jeu pour voir un petit peu quels étaient l'intérêt du jeu et la politique du jeu existante sur la ville et celle qu'il souhaitait faire continuer. C'est vrai que le jeu et la culture ludique en général est un grand outil d'apprentissage, d'émancipation et de loisirs qu'on a souhaité intégrer aux bibliothèques qui a aussi un rôle de loisirs et d'émancipation avec d'autres formes artistiques. Et donc le jeu, on a envie de mettre en valeur le jeu à la fois pour l'aspect loisir, mais également développer la connaissance des différents types de jeux et de tout ce qui l'entoure pour le grand public, qui ne se contente pas seulement de jouer, mais aussi d'en apprendre plus sur le jeu et sur ce qu'il apporte de bénéfique à tout le monde.
Et pour vous, du coup, cet univers du jeu, il englobe quoi ? Comment vous avez essayé de le traduire au sein du festival ?
Donc le festival a pour objectif de proposer et de mettre en valeur tous les types de jeux. Donc pour tous les âges, donc nous proposons des espaces de jeu à partir des nourrissons jusqu'à des personnes, personnes âgées. Et le but est de représenter vraiment tous les types de jeux, c'est-à-dire à la fois des jeux moteurs pour les plus petits avec des parcours de motricité, des parcours sensoriels, les jeux symboliques et d'imitation avec des installations, des espaces de jeux symboliques où les enfants peuvent se déguiser, jouer dans des mises en scène, mais également du jeu de figurines, du jeu de construction, jeu d'assemblage, du puzzle, tous les types de jeux de société, du jeu vidéo, du jeu de rôle cette année. Le but c'est vraiment de représenter tous les types de jeux et y compris aussi les pratiques ludiques qui peuvent être proposées, qui ne sont pas stricto sensu du jeu mais vont être du loisir créatif, de l'atelier de bricolage ou de création d'objets, des pratiques ludiques en lien avec la cuisine par exemple.
Oui, en effet, quand on regarde la programmation, on voit que c'est assez... C'est assez varié dans ce que vous proposez, donc comme vous disiez, il y a des jeux de rôle plateau, un petit peu univers fantastique, des escape games, des jeux de pistage et j'en passe. Comment vous êtes organisé donc, pour avoir cette variété ? Est-ce que c'est notamment compté sur, sur des partenaires de qualité? Est-ce que c'est travailler beaucoup en amont?
Donc le festival se construit avec de nombreux partenaires, hein, il existe grâce à ses partenaires. Donc la bibliothèque a une équipe de ludothécaires qui vont proposer des animations dans les bibliothèques et ludothèques de la ville. Mais nous avons également les 4 centres socio-culturels qui proposent chaque année des animations depuis de nombreuses années. Nous avons des associations comme le Café Associatif Le Petit Air ou le Lutetia qui proposent également des animations tout au long de la quinzaine et plusieurs services de la ville qui se mobilisent comme la Maison des Arts, le service Enfance et Famille et puis on a de l'aide aussi des services logistiques et services techniques pour organiser et mettre en place les différentes animations. Donc on a des partenaires qui chacun en fonction de leurs connaissances et de leurs expériences professionnelles peuvent faire des propositions très très variées. Et la bibliothèque peut apporter parfois pour certains partenaires ou certains types d'animations son expertise ou aussi du matériel pour aider à la mise en place des animations. J'ajouterais aussi que, étant donné que le festival existe depuis plus de 30 ans, on a des partenaires qui sont là dès l'origine et qui ont à force acquis aussi des connaissances en termes de jeux et sont capables de les mettre en pratique très facilement.
Et du coup, pour vous, à travers cette proposition-là, c'est quoi les temps forts, on va dire ?
C'est difficile de choisir parce qu'il y a beaucoup de temps forts, il y a énormément d'animations qui sont proposées en continu sur les deux semaines dans différents lieux, des centres socioculturels qui proposent des espaces de jeu, le service Enfance et Famille qui propose un grand espace moteur au gymnase de la Bourgognière la première semaine et au gymnase du Vigneault la deuxième. Il y a également des différents ateliers qui sont proposés et différents temps de jeu. Donc c'est vrai que là, l'offre est très riche et très très importante. Il est un peu difficile de faire ressortir des temps forts. Je dirais que toutes les animations ont leur intérêt. Et comme elles sont en plus destinées à des publics très variés et d'âges très variés, tous les publics peuvent y trouver leur intérêt. Je mettrais en avant cette année la thématique du festival qui était un festival dont vous êtes le héros. Et donc on a quand même des partenaires et nous-mêmes proposons énormément de jeux d'enquête, d'escape game, d'initiation aux jeux de rôle pour faire découvrir des jeux dont le joueur est le héros et prend une part active et s'immerge dans un univers. Donc ça, c'est un peu la spécificité de cette année, c'est la grande prééminence des différents escape games, jeux d'enquête et jeux de rôle qui sont proposés.
Vous avez aussi plusieurs modules autour un petit peu du do-it-yourself, donc au niveau de l'assemblage et la fabrication de jeux par exemple, qui sont deux modules au sein de votre programmation. En quoi ils consistent ces modules ?
En fait, le but, c'est de pouvoir proposer des activités ludiques autour du jeu. Donc ça va être notamment beaucoup d'ateliers de fabrication de jeux ou de jouets ou d'accessoires qui permettent de jouer ensuite. Le but, c'est de montrer aussi que le côté ludique ne s'arrête pas au jeu, strictement au jeu, mais peut dépasser aussi à des pratiques qui vont permettre de jouer ensuite, en fait. C'est surtout beaucoup ça. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont des ateliers de création, qui propose beaucoup, par exemple, de création d'accessoires de jeux, des masques, des capes pour jouer aux super-héros, des jeux et jouets qui vont être des jeux et jouets à partir de bois, par exemple. Il y a plusieurs ateliers qui proposent ça, qui permettent ensuite de jouer. Donc on est à la fois dans la pratique ludique de « on s'amuse et on crée », les loisirs créatifs, comme on les appelle, sont aussi une forme de jeu. On crée également des éléments qui permettent ensuite de jouer par soi-même.
Donc vous travaillez aussi avec un magasin de jouets solidaires en parallèle justement pour ces modules-là aussi. Donc Joujou, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler de cette entreprise ?
Donc Joujou est une entreprise solidaire dont le rôle est de collecter, revaloriser et après vendre des jouets déjà utilisés. C'est un partenaire avec lequel la bibliothèque travaille dans le cadre du développement durable, d'un axe développement durable et de notamment de pouvoir utiliser ou réutiliser des jeux et jouets et notamment pour les jeux que nous prêtons aux usagers, ne pas seulement prêter et acheter des jouets neufs. Donc c'est un partenaire auprès de quel on se fournit en jeux et jouets depuis l'année dernière. Et le but, c'est aussi de valoriser, à l'occasion du festival, leur activité en proposant des moments de collecte de jeux pendant les 2 semaines et sur le dernier week-end du festival à la salle de la carrière. Donc à la fois que le public puisse donner les jouets dont ils n'ont plus l'utilité pour qu'ils puissent être valorisés ensuite et puis faire connaître cette démarche plus largement auprès du grand public.
Pourquoi valoriser du coup le fait main et les récup? Donc il y a le côté écologique. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous ont motivé, on va dire, à valoriser ça?
Alors, je dirais qu'on promeut toujours sur nos événements et quand on le peut, la participation du public pour qu'il ne soit pas seulement spectateur mais qu'il soit aussi acteur. Et qu'il soit dans la pratique. Et la thématique cette année du festival, un festival dont vous êtes le héros, qui est à la fois sur un axe participation du public et aussi un axe super-héros. Et sur l'axe participation du public, on avait envie justement de mettre en valeur le fait que le public est acteur et qu'il va créer aussi, qu'il va pratiquer et pas seulement être un joueur. Alors, quand on est joueur, on est toujours un peu actif. Mais voilà, on voulait valoriser ce côté pratique d'activité manuelle, pratique de jeu, et on voulait mettre ça aussi en avant cette année.
On voit aussi qu'il y a de la réalité virtuelle qui a été incorporée au sein du festival. Il y a des sessions du jeu League of Legends, et il y a une expo aussi sur l'univers du jeu, c'est le jeu de cartes Runeterra, si je ne me trompe pas. Et donc pour vous, les jeux vidéo, c'est la continuité des jeux de plateau?
Alors pour nous, le jeu vidéo, c'est voilà, une forme de jeu à valoriser comme toutes les autres formes de jeux. À la bibliothèque, on prête des jeux vidéo et on propose des animations jeux vidéo depuis 2013. Donc ça fait déjà plus de 10 ans maintenant. Et donc à chaque festival, on propose des animations qu'on veut sortant un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire sortir un petit peu de la pratique du jeu vidéo sur console ou sur ordinateur, sur un écran de télévision ou un écran d'ordinateur. Et nous, de notre côté, on propose à la bibliothèque des séances de jeux vidéo sur grand écran qui permettent de s'immerger un peu plus par le son et la taille de l'écran et de mettre en valeur aussi à cette occasion des jeux qui ont une esthétique qui peuvent être intéressantes sur une projection en grande taille. Et on propose également de la réalité virtuelle pour être dans une autre manière de jouer. Notre partenaire La Cléa, qui se trouve sur la commune d'Indre, qui est un partenaire depuis très longtemps du festival, La Cléa a toujours aussi une programmation axée sur le jeu vidéo et sur le numérique qui est assez importante. Et donc ils font cette proposition sur Runeterra et les héros de League of Legends. Sur les 2 semaines, ils ont plusieurs propositions de sessions de jeux et de découvertes de l'univers.
Vous décernez aussi le prix Double 6 à la fin du festival, sur le dernier week-end. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des jeux qui sont en lice pour ce prix?
Le prix Double 6, c'est un prix qui récompense un jeu de société créé par des auteurs francophones. Et le principe du jeu, c'est que 6 jeux sont sélectionnés par des personnes de la bibliothèque, du magasin de jeux Sortilège et de la Maison des Jeux de Nantes, qui est une association qui propose des activités autour du jeu sur toute la métropole et le département même, je crois, plus largement. Donc 6 jeux sont sélectionnés chaque année. Des points jeux sont mis en place un peu partout sur le département et même la région. Il y a plus de 100 points jeux cette année qui sont disponibles pour le public.
Où est-ce qu'on en trouve de ces points jeux, par exemple?
Alors, des points jeux, on va en trouver à la Saint-Herblain, les bibliothèques et ludothèques du réseau, évidemment. On en trouve aussi dans des cafés associatifs, des cafés ludiques, des magasins de jeux également, diverses ludothèques, centres socioculturels, maisons de quartier, qu'on en trouve. Donc, toute personne qui est intéressée peut venir dans ces points jeux, jouer au jeu. Sélectionner et ensuite voter selon 3 critères, l'esthétique du jeu, la compréhension de la règle et le plaisir de jouer. Donc voilà, il y a des bulletins de vote, le public vote et à la fin du festival, donc là le public vote depuis à peu près mi-décembre cette année, enfin l'année dernière. Et donc à la fin du festival, pendant le week-end à la carrière, qui est un grand week-end de jeu, le samedi et le dimanche 22 et 23 février, où le public est invité à venir, une fois que le week-end est terminé, on compte les bulletins de vote, et le dimanche 23 février à 17h, on a une cérémonie et on remet le prix au vainqueur du prix, double 6. Cette année, il y a 6 jeux qui sont en lice, qui sont à chaque fois des jeux de société à partir de 7-8 ans généralement, qui sont des jeux familiaux. Le but, c'est vraiment d'être des jeux accessibles à tous les publics et qui peuvent intéresser tous les publics. Donc cette année, nous avons Château Combo de Grégory Grard et Mathieu Roussel, Harmonie de Johan Benvenuto, Courtisan de Romaric Gallonier et Anthony Perron, Ink It de Kevin Gauvin et Romain Clément, Ferry Ring de Laurence Grenier et Fabien Tanguy, et Nekojima de David Carmona et Karen Nguyen. Donc ces 6 jeux sont en lice. Pendant le week-end de la carrière, les auteurs, un ou plusieurs auteurs de ces jeux sont invités et seront présents pour rencontrer le public, échanger avec eux. Et après, on remettra le prix le dimanche pour le vainqueur. Donc c'est un prix qui est quand même assez intéressant parce que c'est un prix du public. Donc voilà, le jeu qui gagne est généralement un jeu pour le public, est un jeu qui a plu, qui est intéressant à jouer, que le public a apprécié. Donc c'est toujours valorisant pour les auteurs de jeux que le public récompense son jeu. Quoi.
Par rapport à ces jeux-là, ça vous permet aussi de mettre en avant l'accessibilité. J'ai cru comprendre que c'était aussi une grosse volonté du festival de faire en sorte que ce soit accessible.
Alors le but du festival, c'est vraiment d'être un événement accessible à tous. Donc on a 90%, voire un peu plus de nos animations qui sont gratuites et qui donc, comme je le dis, peuvent être, quel que soit votre âge ou votre famille, vous pouvez trouver une animation accessible, gratuite et qui peut être adaptée à votre âge ou à l'âge de vos enfants. On a quelques animations qui vont être sur inscription parfois quand les places sont limitées, mais sinon on a aussi des espaces de jeu accessibles sur les horaires d'ouverture. Quelques jeux donc sur inscription, mais et la très grande majorité sont gratuits. Le week-end de la carrière est gratuit, hein, est complètement accessible et gratuit pour le public qui est intéressé. Et pour les points jeux du double 6, là aussi, l'accès est gratuit dans quasiment tous les points jeux à ma connaissance, où le public peut jouer et voter sans condition.
Et donc, vu que le festival est assez fourni, ça va être compliqué de faire une liste exhaustive des infos pratiques. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces infos pratiques?
Donc le programme, on peut le trouver sur le site de la bibliothèque de Saint-Herblain. On a une page dédiée sur le festival avec un lien vers le programme et toutes les informations pratiques. Il y a également, les animations sont également répertoriées dans l'agenda du site de la ville de Saint-Herblain. On peut trouver des programmes papier sur le réseau des bibliothèques, les centres socioculturels, tous les partenaires qui participent au festival et puis différents points de communication municipale. On a également un compte Instagram @fdj-saint-herblain qui permet de donner sur lequel on donne des informations sur les animations. Voilà, donc on peut retrouver toutes ces informations via ces différents biais sans problème.
Vous avez écouté Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet. Nous vous laissons avec l'émission Pensée locale, produite en partenariat avec la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Juste après, vous écouterez Chemin d'Afrique. Bonne soirée sur Jet.
Pensée locale. Spécial forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire.
Je m'appelle Sandrine Roudot, j'ai cofondé les éditions La Mer Salée en 2013. Nous sommes basés à Trentemoux, donc près de Nantes. L'idée de départ, c'était vraiment à la fois l'écologie et à la fois le local, les deux étant liés. On a monté cette maison notamment parce qu'on voulait écrire des livres et en regardant les autres maisons d'édition, on s'est dit qu'on voulait maîtriser où étaient fabriqués et comment étaient fabriqués nos livres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'impressions faites dans les pays de l'Est ou en Chine, dans des conditions terribles écologiquement, avec les pollutions des eaux, du sol, une gestion du papier qui est absolument pas durable. Donc on a monté la mer Salée en se disant on va tout faire à moins de 100 km. Donc notre imprimeur, on en a eu plusieurs, parce que c'est pas simple en fait d'imprimer du livre, c'est pas du tout la même chose que le reste. Plus croisé avec nos exigences écologiques, c'était encore plus compliqué. Donc on a essuyé quelques plâtres, et puis aujourd'hui on travaille avec O75 qui est en Vendée, donc à moins de 100 km. On a à cœur de travailler avec un réseau, nous qu'on estime être un réseau d'artisans locaux. Donc c'est pareil pour la mise en page, on travaille avec PCA qui est là pour le coup arrosé à 3 km, qui travaille également, qui est un des trois grands metteurs en page français. On y va, on parle des mises en page, voilà, de tout ce qui fait la valeur ajoutée de leur travail et pas simplement un prix. Et donc, ils sont très soutenants pour nous, parce qu'on a voulu aussi commencer dès le départ avec des gens professionnels. On n'a pas voulu faire notre mise en page en interne et tout ça. Si je reviens sur l'attention de la mer Salée, c'est aussi une utopie, c'est-à-dire qu'on voulait faire les livres d'une manière qui nous convienne, en termes d'écologie et en termes de qualité. C'est pour ça qu'on a mis le prix dès le départ sur le metteur en page, sur une graphiste, etc. On n'a pas voulu faire des économies au détriment de la qualité parce qu'on trouve que le livre est quelque chose de précieux. On veut montrer qu'un autre monde meilleur est possible dans le futur puisqu'on est envahi de dystopie et qu'en gros tout le monde nous dit ben, « résignez-vous les gens parce que de toute façon c'est plié, voilà, ce sera soit l'effondrement, la poursuite des violences, ou on va tous sur Mars et la high-tech va nous sauver », ce qui est une grosse illusion aussi. Et on n'a pas d'imaginaire qui nous dise « mais regardez, en fait un autre monde est possible ». Et surprise, il est apaisant, il est chouette en fait, c'est pas parce que... Il n'y a pas la 15G, au contraire même. Ce qui nous intéresse à la fin d'un livre de la mer Salée, et notamment des utopiennes, c'est de se dire qu'est-ce que ça donne comme image de l'humanité. Pas une image idéalisée, niaisouille, mais de la tendresse pour nos faiblesses, montrer qu'on est une grande famille, que ça induise de la bienveillance. On ne dit pas bienveillance. Mais ça induit de la bienveillance, en fait, sur, bah oui, on peut être loyal, et puis le lendemain, être lâche. Et puis, en même temps, en fait, on est beau et on est belle. Et ça, tu l'as pas tellement, en fait, dans les livres. Et ça, c'est peut-être le truc qui me révolte le plus, c'est qu'il y a un sabotage en règle de la foi en l'humanité et que je trouve extrêmement manipulatoire et qui profite au statu quo et au modèle conservateur qui nous mène droit dans le mur, quoi, en fait. En disant, l'homme est un loup pour l'homme, on sait qu'il s'approfite, ça profite... au top de la meute, quoi. Donc, forcément. Comme on n'avait pas beaucoup de manuscrits, c'est pour ça qu'on a lancé les utopiennes. Il y a très peu de gens qui, en fait, écrivent de l'utopie. Il y en a très, très peu. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller chercher des gens de talent, mais qui étaient plutôt dans un truc sombre, parce que c'est aussi très fascinant. Et de leur dire, voilà, je leur fais mon laïus, là, et je les interpelle en disant, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous nourrissez? Vous nourrissez quelle face de l'humanité? Est-ce que vous nourrissez notre joie et notre détermination et notre audace et notre envie de résister et de se dire, bah ouais, non, en fait, tu vois, on va faire mentir les pires pronostics et puis on va arrêter de se laisser faire. Ou est-ce que tu nourris la peur, la tristesse, la sidération, cette espèce de truc glauque, là, cette face obscure, quoi? Et dans ce cas-là, à qui ça profite? Donc c'était aussi pour ça, pour interpeller ces auteurs-là, ces autrices, avec l'espoir que peut-être voilà, ils aillent plus loin, et puis à la fois pour leur œuvre habituelle, et puis peut-être pour qu'ils viennent aussi travailler avec nous. C'était aussi un des objectifs des utopiennes, c'était aussi de rencontrer un maximum d'auteurs et d'autrices qui voient comment on travaille et qui aient envie de travailler avec nous plus largement.
Entretien réalisé par Henri Landré pour Jet FM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société.
Une émission réalisée dans le cadre du forum « Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire » le 7 mars 2025 dans les Halles 1 et 2 sur l'île de Nantes.